Polyeucte. Polyeucte martyr, tragédie chrétienne en 5 actes. 1640. Pierre Corneille. Personnage. Félix, sénateur romain, gouverneur d'Arménie. Polyeucte, seigneur arménien, gendre de Félix. Sévère, chevalier romain, favori de l'empereur Décie. Néarque, seigneur arménien, ami de Polyeucte. Pauline, fille de Félix et femme de Polyeucte. Stratonis, confidente de Pauline, Albin, confident de Félix, Fabian, domestique de Sévère, Cléon, domestique de Félix. Trois gardes. La scène est à Mélitène, capitale d'Arménie, dans le palais de Félix. Acte 1er, scène 1er. Polyeucte, Néarque. Néarque. Quoi, vous vous arrêtez au songe d'une femme? De si faibles sujets troublent cette grande âme? Et ce cœur, tant de fois dans la guerre éprouvé, s'alarme d'un péril qu'une femme a rêvé? Polyeucte. Je sais ce qu'est un songe, et le peu de croyance qu'un homme doit donner à son extravagance, qui d'un amas confus des vapeurs de la nuit forme de vains objets que le réveil détruit. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une femme. Vous ignorez quel droit elle a sur toute l'âme, quand, après un long temps qu'elle a su nous charmer, les flambeaux de l'hymen viennent de s'allumer. Pauline, sans raison, dans la douleur plongée, craint et croit déjà voir ma mort, qu'elle a songé. Elle oppose ses pleurs au dessein que je fais, et tâche de m'empêcher de sortir du palais. Je méprise sa crainte et je cède à ses larmes. Elle me fait pitié sans me donner d'alarme, et mon cœur, attendri sans être intimidé, n'ose déplaire aux yeux dont il est possédé. L'occasion, Néarque, est-elle si pressante qu'il faille être insensible aux soupirs d'une amante? Par un peu de remise, épargnons son ennui, pour faire en plein repos ce qu'il trouble aujourd'hui. Néarque. Avez-vous cependant une pleine assurance d'avoir assez de vie ou de persévérance? Et Dieu, qui tient votre âme et vos jours dans sa main, promet-il à vos yeux de le pouvoir demain? Il est toujours tout juste et tout bon, mais sa grâce ne descend pas toujours avec même efficace. Après certains moments que perdent nos langueurs, elle quitte ses traits qui pénètrent les cœurs. Le nôtre s'endurcit, la repousse, l'égare. Le bras qui la versait en devient plus rare. Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien tombe plus rarement, ou n'opère plus rien. Celle qui vous pressait de courir au baptême, languissante déjà, cesse d'être la même. Et pour quelques soupirs qu'on vous a fait ouïr, sa flamme se dissipe et va s'évanouir. Polyeucte. Vous me connaissez mal. La même ardeur me brûle, et le désir s'accroît quand les faits se reculent. Ces pleurs, que je regarde avec un œil d'époux, me laissent dans le cœur aussi chrétien que vous. Mais pour en recevoir le sacré caractère, qui lave nos forfaits dans une eau salutaire, et qui, purgeant notre âme et dessillant nos yeux, nous rend le premier droit que nous avions aux cieux. Bien que je le préfère aux grandeurs d'un empire, comme le bien suprême et le seul où j'aspire, je crois, pour satisfaire un juste et saint amour, pouvoir un peu remettre et différer d'un jour. Néarque. Ainsi du genre humain l'ennemi vous abuse. Ce qu'il ne peut de force, il l'entreprend de ruse. Jaloux des bons desseins qu'il tâche d'ébranler, quand il ne peut les rompre, il pousse à reculer. D'obstacle sur obstacle, il va troubler le vôtre. Aujourd'hui par des pleurs, chaque jour par quelque autre, et ce songe rempli de noires visions n'est que le coup d'essai de ses illusions. Il met tout en usage, et prière, et menace. Il attaque toujours et jamais ne se lasse. Il croit pouvoir enfin ce qu'encore il n'a pu, et que ce qu'on diffère est à demi rompu. Rompez ses premiers coups. Laissez pleurer Pauline. Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, qui regarde en arrière et douteux en son choix, lorsque sa voix l'appelle, écoute une autre voix. Polyeucte. Pour se donner à lui, faut-il n'aimer personne? Néarque. Nous pouvons tout aimer. Il le souffre. Il l'ordonne. Mais à vous dire tout, ce seigneur des seigneurs veut le premier amour et les premiers honneurs. Comme rien n'est égal à sa grandeur suprême, il faut ne rien aimer qu'après lui, qu'en lui-même. Négliger pour lui plaire, et femme, et bien, et rang. Exposer pour sa gloire et verser tout son sang. Mais que vous êtes loin de cette ardeur parfaite qui vous est nécessaire et que je vous souhaite. Je ne puis vous parler que les larmes aux yeux. Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tout lieu, qu'on croit servir l'État quand on nous persécute, qu'aux plus âpres tourments un chrétien est en butte, comment pourrez-vous surmonter les douleurs si vous ne pouvez pas résister à des pleurs? Polyeucte. Vous ne m'étonnez point. La pitié qui me blesse sied bien au plus grand cœur et n'a point de faiblesse. Sur mes pareils, Néarque, un bel œil est bien fort. Tel craint de le fâcher qui ne craint pas la mort. Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, y trouver des appâts, en faire mes délices. Votre Dieu, que je n'ose encore nommer le mien, m'en donnera la force en me faisant chrétien. Néarque, hâtez-vous donc de l'être. Polyeucte, oui, j'y cours, cher Néarque, je brûle d'emporter la glorieuse marque. Mais Pauline s'afflige et ne peut consentir, tant ce songe la trouble, à me laisser sortir. Néarque, votre retour pour elle en aura plus de charme. Dans une heure au plus tard, vous essuierez ses larmes, et l'heure de vous revoir lui semblera plus doux, plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend. Polyeucte, apaisez donc sa crainte, et calmez la douleur dont son âme est atteinte, elle revient. Néarque, fuyez, Polyeucte, je ne puis. Néarque, il le faut. Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, qui le trouve aisément, qui blesse par la vue, et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue. Scène 2. Polyeucte, Néarque, Pauline, Stratonis. Polyeucte. Fuyons, puisqu'il le faut. Adieu, Pauline, adieu. Dans une heure ou plus tard, je reviens en ce lieu. Pauline. Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? Y va-t-il de la vie? Polyeucte. Il y va de bien plus. Pauline. Quel est donc ce secret? Polyeucte. Vous le saurez un jour. Je vous quitte à regret, mais enfin il le faut. Pauline. Vous m'aimez? Polyeut, je vous aime. Le ciel m'en est témoin, 100 fois plus que moi-même. Mais, Pauline, même mon déplaisir ne vous peut émouvoir. Vous avez des secrets que je ne puis savoir. Quelle preuve d'amour! Au nom de l'Hyménée, donnez à mes soupirs cette seule journée. Polyeut, un songe vous fait peur? Pauline, ces présages sont vains, je le sais, mais enfin je vous aime et je crains. Polyeut, ne craignez rien de mal pour une heure d'absence. Adieu. Vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter, et ce n'est qu'en fuyant que je peux résister. Scène 3. Pauline, Stratonis. Pauline. Va, néglige mes pleurs. Cours et te précipite au-devant de la mort que les dieux m'ont prédite. Suis cet agent fatal de tes mauvais destins, qui peut-être te livre aux mains des assassins. Tu vois, ma Stratonis, en quel siècle nous sommes. Voilà notre pouvoir sur les esprits des hommes, voilà ce qui nous reste. Et l'ordinaire effet de l'amour qu'on nous offre et des vœux qu'on nous fait. Tant qu'ils ne sont qu'amants, nous sommes souveraines, et jusqu'à la conquête ils nous traitent de reines. Mais après l'Hyménée, ils sont rois à leur tour. Stratonis. Polyeut pour vous ne manque point d'amour. S'il ne vous traite ici d'entière confidence, s'il part malgré vos pleurs, c'est un trait de prudence. Sans vous en affliger, présumez avec moi qu'il est plus à propos qu'il vous sait le pourquoi. Assurez-vous sur lui qu'il en a juste cause. Il est bon qu'un mari nous cache quelque chose, qu'il soit quelquefois libre et ne s'abaisse pas à nous rendre toujours compte de tous ses pas. On a tous deux qu'un cœur, qui sans même traverse. Mais ce cœur a pourtant ses fonctions diverses, et la loi de l'hymen qui nous tient assemblés n'ordonne pas qu'il tremble alors que vous tremblez. Ce qui fait vos frayeurs ne peut le mettre en peine. Il est arménien, et vous êtes romaine. Et vous pouvez savoir que nos deux nations n'ont pas sur ce sujet mêmes imprécisions. Un songe en notre esprit passe pour ridicule. Il ne nous laisse espoir, ni crainte, ni scrupule. Mais il passe dans Rome avec autorité pour fidèle miroir de la fatalité. Pauline, quelque peu de crédit que chez vous il obtienne, je crois que ta frayeur égalerait la mienne si de telles horreurs t'avaient frappé l'esprit. Si je t'en avais fait seulement le récit. Stratonis, à raconter ces mots, souvent on les soulage. Pauline, écoute. Mais il faut te dire davantage. Et que, pour mieux comprendre un si triste discours, tu saches ma faiblesse et mes autres amours. Une femme d'honneur peut avouer sans honte ces surprises des sens que la raison surmonte. Ce n'est qu'en ces assauts qu'éclate la vertu, et l'on doute d'un cœur qui n'a point combattu. Dans Rome, où je naquis, ce malheureux visage d'un chevalier romain captiva le courage. Il s'appelait Sévère. Excuse les soupirs qu'arrache encore un nom trop cher à mes désirs. Stratonis. Est-ce lui qui naguère, aux dépens de sa vie, sauva des ennemis votre empereur Décie? Qui leur tira mourant la victoire des mains? Et fit tourner le sort des Perses aux Romains? Lui, qu'entre tant de morts immolées à son maître, on ne put rencontrer, ou du moins reconnaître? à qui décit enfin, par des exploits si beaux, fit si pompeusement dresser de 20 tombeaux? Pauline. Hélas, c'était lui-même. Et jamais notre Rome n'a produit plus grand cœur, ni vu plus honnête homme. Puisque tu le connais, je ne t'en dirai rien. Je l'aimais, Stratonis. Il le méritait bien. Mais que sert le mérite ou manque la fortune? L'un était grand en lui, l'autre faible et commune, trop invincible obstacle, et dont trop rarement triomphe auprès d'un père, un vertueux amant. Stratonis. La digne occasion d'une rare constance. Pauline. Dis plutôt d'une indigne et folle résistance. Quelque fruit qu'une fille en puisse recueillir, ce n'est une vertu que pour qui veut faillir. Parmi ce grand amour que j'avais pour ces vers, j'attendais un époux de la main de mon père, toujours prête à le prendre, et jamais ma raison n'avoua de mes yeux l'aimable trahison. Il possédait mon cœur, mon désir, ma pensée. Je ne lui cachais point combien j'étais blessée. Nous soupirions ensemble et pleurions nos malheurs. Mais au lieu d'espérance, il n'avait que des pleurs. Et malgré des soupirs si doux, si favorables, mon père et mon devoir étaient inexorables. Enfin, je quittai Rome, et ce parfait amant, pour suivre ici mon père en son gouvernement. Et lui, désespéré, s'en alla dans l'armée chercher d'un beau trépas l'illustre renommée. Le reste, tu le sais. Mon abord en ces lieux me fit voir Polyeucte, et je plus à ses yeux. Et comme il est ici le chef de la noblesse, mon père fut ravi qu'il me prît pour maîtresse. Et par son alliance, il se crut assuré d'être plus redoutable et plus considéré. Il approuva sa flamme et conclut l'hyménée. Et moi, comme à son lit je me vis destiné, je donnais par devoir, à son affection, tout ce que l'autre avait par inclination. Si tu peux en douter, juge-le par la crainte dont en ce triste jour tu me vois l'âme atteinte. Stratonis. Et le fait assez voir à quel point vous l'aimez. Mais quel songe, après tout, tient vos sens alarmés? Pauline. Je l'ai vu cette nuit. Ce malheureux sévère, la vengeance à la main, l'œil ardent de colère. Il n'était point couvert de ces tristes lambeaux qu'une ombre désolée emporte des tombeaux. Il n'était point percé de ces coups pleins de gloire qui, retranchant sa vie, assurent sa mémoire. Il semblait triomphant. Et tel que, sur son char victorieux dans Rome, entre notre César. Après un peu d'effroi que m'a donné sa vue, « Porte à qui tu voudras la faveur qui m'est due, ingrate, m'a-t-il dit, et ce jour expiré pleure à loisir l'époux que tu m'as préféré. » À ces mots, j'ai frémi, mon âme s'est troublée. Ensuite des chrétiens, une impie assemblée, pour avancer l'effet de ce discours fatal, a jeté Polyeucte aux pieds de son rival. Soudain à son secours j'ai réclamé mon père. Hélas, c'est de tout point ce qui me désespère. J'ai vu mon père même, un poignard à la main, entrer le bras levé pour lui percer le sein. Là, ma douleur trop forte a brouillé ces images. Le sang de Polyeucte a satisfait leur rage. Je ne sais ni comment, ni quand ils l'ont tué. Mais je sais qu'à sa mort, tous ont contribué. Voilà quel est mon songe. Stratonis. Il est vrai qu'il est triste. Mais il faut que votre âme à ses frayeurs résiste. La vision de soi peut faire quelque horreur, mais non pas vous donner une juste terreur. Pouvez-vous craindre un mort? Pouvez-vous craindre un père qui chérit votre époux, que votre époux révère, et dont le juste choix vous a donné à lui, pour s'en faire, en ces lieux, un ferme et sûr appui? Pauline. Il m'en a dit autant, et rit de mes alarmes. Mais je crains des chrétiens les complots et les charmes, et que sur mon époux, leurs troupeaux ramassés ne vengent tant de sang que mon père a versé. Stratonis. Leur secte est insensée, impie et sacrilège. Et dans son sacrifice, use de sortilège. Mais sa fureur ne va qu'à briser nos autels. Elle n'en veut qu'aux dieux, et non pas aux mortels. Quelque sévérité que sur eux on déploie, ils souffrent sans murmure, et meurent avec joie. Et depuis qu'on les traite en criminels d'État, on ne peut les charger d'aucun assassinat. Pauline, tais-toi, mon père vient. Scène 4. Félix, Albin, Pauline, Stratonis. Félix. Ma fille, que ton songe en d'étranges frayeurs ainsi que toi me plonge. Que j'en crains les effets qui semblent s'approcher. Pauline. Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher? Félix. Sévère n'est point mort. Pauline. Quel mal nous fait sa vie? Félix. Il est le favori de l'empereur Décie. Pauline. Après l'avoir sauvé des mains des ennemis, l'espoir d'un si haut rang lui devenait permis. Le destin, au grand cœur si souvent mal propice, se résout quelquefois à leur faire justice. Félix. Il vient ici lui-même. Pauline. Il vient? Félix. Tu vas le voir. Pauline. C'en est trop. Mais comment le pouvez-vous savoir? Félix. Albin l'a rencontré dans la proche campagne. Un gros de courtisans en foule l'accompagne, et montre assez quel est son rang et son crédit. Mais Albin, redis-lui ce que les gens t'ont dit. Albin. Vous savez quelle fut cette grande journée que sa perte pour nous rendit si fortunée, où l'empereur captif, par sa main dégagée, rassura son parti déjà découragé. Tandis que sa vertu succomba sous le nombre. Vous savez les honneurs qu'on fit faire à son ombre, après qu'entre les morts on ne le put trouver. Le roi de Perse aussi l'avait fait enlever. Témoin de ses hauts faits et de son grand courage, ce monarque en voulut connaître le visage. On le mit dans sa tente, où tout percé de coups, tout mort qu'il paraissait, il fit mille jaloux. Là bientôt, il montra quelques signes de vie. Ce prince généreux en eut l'âme ravie, et sa joie, en dépit de son dernier malheur, du bras qui le causait, honora la valeur. Il en fit prendre soin. La cure en fut secrète. Et comme au bout d'un mois, sa santé fut parfaite, il offrit dignité, alliance, trésor. Et pour gagner ses vers, il fit 120 efforts. Après avoir comblé ses refus de louanges, il envoie à Décie en proposer l'échange. Et soudain l'empereur, transporté de plaisir, offre aux Perses son frère et 100 chefs à choisir. Ainsi revint au camp le valeureux Sévère, de sa haute vertu recevoir le salaire. La faveur de Décie en fut le digne prix. De nouveau long combat. Et nous sommes surpris. Ce malheur, toutefois, sert à croître sa gloire. Lui seul rétablit l'ordre et gagne la victoire. Mais si belle et si pleine et par tant de beaux faits qu'on nous offre tribut. Et nous faisons la paix. L'empereur, qui lui montre une amour infinie, après ce grand succès, l'envoie en Arménie. Il vient en apporter la nouvelle en ces lieux, et par un sacrifice, en rendre hommage aux dieux. Félix. Au ciel ! En quel état ma fortune est réduite ! Albin. Voilà ce que j'ai su d'un homme de sa suite, et j'ai couru, Seigneur, pour vous y disposer. Félix. Ah, sans doute, ma fille, il vient pour t'épouser. L'ordre d'un sacrifice est pour lui peu de chose. C'est un prétexte faux, dont l'amour est la cause. Pauline.
Cela pourrait bien être. Il m'aimait chèrement.
Félix. Que ne permettra-t-il à son ressentiment ? Et jusque à quel point ne porte sa vengeance une juste colère avec tant de puissance ? Il nous perdra, ma fille.
Pauline. Il est trop généreux.
Félix. Tu veux flatter en vain un père malheureux. Il nous perdra, ma fille. Ah, regret qui me tue de n'avoir pas aimé la vertu toute nue. Ah, Pauline. En effet, tu m'as trop obéi. Ton courage était bon. Ton devoir la trahit. Que ta rébellion m'eût été favorable. Qu'elle m'eût garanti d'un état déplorable. Si quelque espoir me reste, il n'est plus aujourd'hui qu'en l'absolu pouvoir qu'il te donnait sur lui. Ménage, en ma faveur, l'amour qui le possède, et d'où provient mon mal. Fais sortir le remède.
Pauline. Moi ? Moi ? Que je revois un si puissant vainqueur, et m'expose à des yeux qui me percent le cœur ? Mon père, je suis femme, et je sais ma faiblesse. Je sens déjà mon cœur qui pour lui s'intéresse, et poussera sans doute, en dépit de ma foi, quelque soupir indigne, et de vous et de moi. Je ne le verrai point.
Félix, rassure un peu ton âme.
Pauline. Il est toujours aimable, et je suis toujours femme. Dans le pouvoir sur moi que ses regards ont eu, je n'ose m'assurer de toute ma vertu. Je ne le verrai point.
Félix, il faut le voir, ma fille, ou tu trahis ton père et toute ta famille.
Pauline. C'est à moi d'obéir. Puisque vous commandez. Mais voyez les périls où vous me hasardez.
Félix. Ta vertu m'est connue.
Pauline.
Elle vaincra sans doute. Ce n'est pas le succès que mon âme redoute.
Je crains ce dur combat et ces troubles puissants que fait déjà chez moi la révolte des sangs. Mais puisqu'il faut combattre un ennemi que j'aime,
souffrez que je me puisse armer contre moi-même, et qu'un peu de loisir me prépare à le voir. Félix, jusqu'au devant des murs je vais le recevoir. Rappelle cependant tes forces étonnées, et songe qu'en tes mains tu tiens nos destinées.
Pauline. Oui. Je vais de nouveau dompter mes sentiments. Pour servir de victime à vos commandements.